Il y a de belles traditions qui disent que certains ânes ont une croix sur les épaules. Et même, je crois que beaucoup d'ânes ont cette croix. Ils ont une croix qui descend, comment dire, sur la place du joug. La foule immense qui était dans la ville pour la fête de la Pâque qui approchait le samedi qui suivait. Oui. La foule, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, accourut au-devant de lui jusqu'à la descente du mont des Oliviers. Les uns coupaient des branches d'arbres et en jonchaient le chemin, les autres en grand nombre étendaient leurs manteaux sur son passage, d'autres portaient des rameaux de palmiers. Et tous les disciples, transportés d'une vive allégresse, « On va être ministre, on va être ministre !» se mirent à chanter à pleine voix les louanges de Dieu, au souvenir de tous les prodiges dont ils avaient été les témoins. « Hosanna » criait-il, c'est louange. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Béni soit le règne de David, notre père, qui va commencer. » On va chasser les Romains. Hosanna au fils de David, paix et gloire au plus haut des cieux. Les foules qui précédaient et celles qui suivaient le Seigneur poussaient les mêmes acclamations. Ceux qui avaient vu ressusciter Lazare attestaient ce miracle, dont le bruit attirait la multitude au devant de Jésus. Or, tout ceci eut lieu afin que fût réalisée la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, ne crains pas, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, assis sur une ânesse, puis sur l'ânon de celle qui porte le joug. Les disciples ne comprirent pas ceci tout d'abord. C'était l'accomplissement des Écritures. Mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que toutes les choses accomplies à son égard étaient écrites de lui. Cependant, au milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, imposez donc silence à vos disciples !»« Je vous le déclare, répondit-il, s'ils se taisent, les pierres même crieront. » Quand Jésus fut près de Jérusalem, voyant cette ville, il pleura sur elle. C'est impressionnant. Tout le monde est heureux. Oui. Le Christ pleure. « Ah, toi aussi, s'écria-t-il, que ne sais-tu reconnaître du moins en ce jour qui t'est encore donné ce qui pourrait apporter la paix. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront et te presseront de toutes parts. Ils te renverseront par terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi, et ne te laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas su reconnaître le temps où je t'ai visité. » Imaginez les apôtres qui entendent ça. Ils étaient vraiment sourds. Hop, un Alzheimer, c'est tellement plus agréable. Là, mais c'est la mémoire immédiate. Enfin, Jésus entra dans Jérusalem. Toute la ville fut en émoi. On se demandait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Il pénétra dans le temple de Dieu. Et au lieu et se mit à chasser tous ceux qui vendaient et achetaient dans le lieu saint. D'autant plus qu'on était à 6 jours de la Pâque, donc on achetait les moutons. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Il ne souffrit pas qu'on transportât aucun ustensile par le temple. Et il s'écriait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière dans toutes les nations ?» Dans toutes les nations, prophétie du fait que la foi juive sera répandue jusqu'en Australie. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et là, une centaine, si vous voulez, c'est Jésus, là, maintenant, il dit les choses ouvertement. Il dit qu'il est le Messie, le descendant de David. En 3 ans de prédication, au début, il demandait le silence, mais là, vous voyez bien qu'il ne demande pas le silence. Et puis, les gens s'approchent. Là, il ne prend pas il ne fait pas de la boue, ou il n'envoie pas à la fontaine ou à la piscine de Siloé. Il suffit qu'ils le touchent et ils sont guéris. Des aveugles. Et on amenait les aveugles auprès de lui et il suffisait qu'ils le touchent et ils retrouvaient la vue. Là, on est vraiment dans l'éclat de la divinité. Le créateur. Mais en fait, c'est pas l'essentiel. C'est le salut de l'âme l'essentiel. Et alors, voyez-vous, ça va être fini dans 6 jours. Plus de miracles, mais l'amour. Oui. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. On aimerait justement des miracles, que quelqu'un qui est tétraplégique soit guéri. Quand vous avez des personnes qui vous promettent des miracles, hein, des messes de guérison. Moi, je les attends toujours aux soins palliatifs, hein, de Jeanne Garnier, ou d'ailleurs. Ces grands charismatiques, c'est merveilleux, donc ils arrivent, mais qu'ils aillent dans les soins palliatifs, parce qu'il y a plein de personnes à guérir, là, je peux vous assurer. Imaginez que cela. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Les princes, des prêtres, les scribes, ayant appris ce qu'il venait de faire, délibérèrent entre eux sur le moyen à prendre pour le faire périr. Ils le craignaient de plus en plus parce que tout le peuple admirait sa doctrine et se tenait comme suspendu à ses lèvres tandis qu'il parlait. Ils ne surent que lui faire. C'est effrayant, hein. Ils furent transportés d'indignation à la vue des merveilles qu'il accomplissait et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ! » « Entendez-les ! » s'écrièrent-elles. « Ce que disent ceux-là ? » ?»« Oui, sans doute, répondit Jésus. » N'avez-vous pas lu cette parole? Vous avez mis la louange parfaite dans la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Vous savez, avant que Jésus soit doux et humble et se laisse faire à la passion, je vous assure, tout ce qu'il dit en ce moment, et ce sont des paroles d'autorité. Hein. Quand il dit cette ville sera dévastée, c'est quand même une drôle de prophétie. Hein. C'est pas rigolo. Hein. Et Jésus les quitta, pendant qu'ils se disaient entre eux, « Voyez que nous ne gagnons rien, tout le monde court à lui. » Il se trouvait quelques gentils, c'est-à-dire non-juifs, parmi ceux qui étaient montés au temple pour adorer au jour de la solennité, des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de la descendance d'Abraham et qui croient en la foi d'Abraham. Des Romains, des Égyptiens, des Gaulois, enfin, plutôt des Égyptiens en règle générale, mais qui viennent et qui ont été circoncis. Vous voyez, des peuples où il n'y avait pas de circoncision, et bien, ils se font circoncire au nom de la foi d'Abraham. Mais les Juifs de descendance avaient toujours un petit... Enfin, ils savaient faire la différence. Eux sont convertis, mais voilà. Donc ici, vous voyez, ils sont juifs de religion, mais ils sont pas d'origine juive, donc ils sont gentiles, c'est-à-dire du genre de l'engendrement d'ailleurs. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette prière. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe, l'ayant dit ensemble à Jésus, il fit entendre cette parole. L'heure est venue, parce que là, voyez-vous, ce sont des noms... Enfin, ils sont juifs de religion, mais ils viennent de pays étrangers. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le déclare, si le grain de froment ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte un fruit abondant. Celui qui, dans ce monde, aime sa vie, la perdra. Celui qui aime sa vie en ce monde, la conserve pour la vie éternelle. Qu'il me suive, celui qui veut me servir. Là où je suis, doit être également mon serviteur. Quiconque sera dévoué à mon service, mon Père l'honorera. Donc là, il se prend pas pour, il se prend pour le Messie. Mais qu'est-ce que ça veut dire haïr sa vie? C'est-à-dire préférer le bien et la justice. Bien sûr. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Mon Père, sauvez-moi de cette heure, c'est-à-dire de cet instant où je vais mourir. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Ô Père, glorifiez votre nom. Il dit ça devant tout le monde. Que les apôtres ne disent pas, oh, on ne savait pas. D'abord, le Christ dit, je vais mourir, je vais être livré aux païens, je vais être flagellé, je vais être crucifié et je ressusciterai. Ah bon? Je vais mourir, je vais être livré aux païens, je vais être et je ressusciterai. Ah bon? Et là, cette heure, il sait bien qu'il va mourir. Et eux, ils disent, oh, ça doit être complètement spirituel. Et du ciel, une voix se fit entendre. La voix du Père, la voix du Mont Sinaï. Hein. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais c'est un grand miracle, vous savez, que Dieu, le Père, parle. C'est pas... Vous l'avez eu au baptême, vous l'avez eu à la transfiguration, au baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Le corps de Jésus qui devient lumineux sur la montagne du Tabor devant Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. Et ici, dans la foule qui était là et qui avait entendu, les uns disaient « C'est un coup de tonnerre !» Non, reprenaient les autres, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus leur dit « Ce n'est pas pour moi, mais pour vous que cette voix s'est faite entendre. Maintenant, c'est la condamnation du monde. Maintenant, le prince de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » En parlant ainsi, il faisait allusion au genre de mort qui lui était réservé. La foule répondit. Mais eux, élevés de terre, c'est-à-dire crucifiés, ils sont pas idiots, hein. Nous savons par la loi que le Christ demeure à jamais. Enfin, c'est un grand roi. Il est extraordinaire, il est tout puissant. Comment ça se fait qu'il va mourir? Comment pouvez-vous dire il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-il ce Fils de l'homme qui doit être élevé? Voyez, la foule est plus intelligente que toute une légion d'exégètes. Voyez? Donc ils sont indignés. Le Messie va mourir. Mais ont-ils lu Jérémie? Ont-ils lu Ésaïe? Non, apparemment pas. Ont-ils lu le psaume 21 du roi David? La lumière est encore au milieu de vous pour un peu de temps, dit Jésus. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que vous ne soyez point surpris par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, tandis que vous avez la lumière, croyez en la lumière, de sorte que vous soyez des enfants de la lumière. Ça, c'est pour eux, mais c'est pour nous. À tout moment, on peut être ou dans la lumière ou dans les ténèbres. Et le Christ dit ça à tous les hommes et à toutes les générations. C'est pas seulement pour ceux qui l'écoutent. À ce moment-là. C'était donc en vain que Jésus avait fait tant de miracles sous leurs yeux. Ça, c'est un commentaire du chanoine Weber. Hein. Il aurait pu le mettre en italique, quand même. Ils ne croyaient pas en lui. Ainsi se réalisait la parole du prophète Isaïe. Qui a cru, Seigneur, à ce que nous avons fait entendre? Et qui a su reconnaître le bras de Dieu? Non, ils ne pouvaient pas croire, car Isaïe avait dit également « Leurs yeux seront aveuglés et leurs cœurs seront endurcis, de sorte que leurs yeux ne voient pas, que leurs cœurs ne comprennent pas, qu'ils soient dès lors incapables de se retourner vers moi et que je ne puisse les guérir. » Alors vous allez dire, c'est Dieu qui les endurcit, c'est Dieu qui les aveugle, c'est Dieu qui fait pécher les hommes. C'est une manière de parler. C'est Dieu ne donne pas une grâce absolue, n'est-ce pas? C'est la querelle de la grâce et de l'aide de Dieu pour quelqu'un qui ne veut pas voir et qui ne veut pas comprendre et qui fait obstacle à la grâce qu'il a quand même pour voir et pour comprendre. Mais vous voyez, le fait même qu'il ne se convertisse pas est quelque chose de ce mystère de la grâce. Vous voyez. Pour saint Paul, Jésus est apparu. Il a renversé de cheval dans une lumière divine. Donc c'est un beau miracle. Mais peut-être que saint Paul aurait pu... Pas peut-être. Saint Paul aurait pu se relever de cheval en disant « T'es un faux messie !» Mais il a été... Ce miracle et la grâce qui l'a accompagné il a cédé et sa volonté a accompagné la grâce. Tel fut le langage d'Isaïe quand Jésus lui apparut dans sa gloire et que le prophète parla de lui. Commentaire du chanoine Weber. Hein. Mais Isaïe, voyez-vous, il parle à la place du Messie dans ces moments-là. Il est pris par l'Esprit Saint. Leurs yeux seront aveuglés. Hein. Qu'ils soient dès lors incapables de se retourner vers moi et que je ne puisse les guérir. Eh bien, voyez-vous, ceux qui sont intelligents, en bonne santé, et qui se moquent complètement de Dieu, hein, il vaudrait pour mieux pour eux qu'ils soient simplets et dans une incapacité de résister à la grâce. Néanmoins, parmi les principaux d'entre les Juifs, beaucoup croyaient en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en laissaient rien paraître, de peur d'être expulsés de la synagogue. Ainsi, il sacrifiait la gloire de Dieu au respect humain. Ça, c'est un petit commentaire du chanoine Weber, hein, au respect humain. Mais ce qui nous est révélé par saint Jean, c'est qu'il y en a qui savaient dans leur cœur qu'il était le Messie. Et qui ne voulaient pas être expulsés. Nicodème et Joseph d'Arimathie, eux, iront jusqu'au bout. Alors Jésus éleva la voix. « Celui qui croit en moi, s'écria-t-il, ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, » donc il dit qu'il est Dieu quand même, hein, « je suis venu en ce monde afin que tous ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans les ténèbres. Pour celui qui entend ma parole et ne la garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me méprise et n'accepte pas mes paroles trouvera qui le juge. » La doctrine que j'ai enseignée sera son juge. Vous voyez, Jésus n'est pas juge au sens de celui qui vient condamner, mais à terme, tout ce qu'il a dit est un jugement sur ceux qui le refusent. Elle le condamnera au dernier jour, car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé de parler et m'a prescrit ce que je devais dire. Et je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Donc, ce que je le dis comme le Père me l'a fait entendre. » Sur ces paroles, Jésus les laissa. Puis, le soir venu, après avoir examiné toutes choses, il s'éloigna de la ville et reprit avec les 12 le chemin de Béthanie. Il y passa la nuit. Commentaire. Béthanie, aujourd'hui, El Azariah, n'est distante de Jérusalem, nous l'avons dit, que d'environ 3 kilomètres. Si l'on gravit le rapide sentier qui prend au nord du jardin de Gethsémani. La distance est un peu plus longue que par le chemin de Jéricho, qui traverse le Cédron entre le village de Siloé et le tombeau d'Absalom, qui était un fils de David, et s'engage entre le mont des Oliviers au nord et le mont du Scandale au sud. Le mont du Scandale est ainsi appelé parce que c'est là que Salomon, dans sa vieillesse, avait élevé des temples et des autels aux idoles où certains de ses enfants ont été sacrifiés par ses épouses, idolâtres. Mais voyez-vous, là, les disciples, ils reviennent à Béthanie, mais imaginez les zélotes, les disciples, ils sont là, mais il n'a pas pris le pouvoir. Il n'a pas pris le pouvoir. Le lendemain, dès le point du jour, comme Jésus sortait de Béthanie avec ses disciples, pour revenir à Jérusalem, il eut faim. Ayant remarqué de loin sur la route un figuier couvert de son feuillage, il s'approcha pour voir si, peut-être, il n'y trouverait pas quelques fruits, bien que ce ne fût pas encore la saison des figues. Bon, Jésus est Dieu, il sait qu'il n'y a pas de figues. Il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit au figuier, « Que jamais personne ne mange de ton fruit et que jamais il n'en naisse de toi. » Qu'est-ce que c'est que cette prophétie assez impressionnante. Jésus reproche aux hommes de refuser sa grâce surnaturelle qui va au-delà de la nature. Le résultat, c'est la mort spirituelle. Les disciples entendirent ces paroles. Donc on saura plus tard que le figuier a été desséché. Donc Dieu, de temps en temps, il s'énerve. Étant arrivé à Jérusalem, Jésus monta au temple. Comme il se promenait dans les galeries, enseignant le peuple et lui annonçant la bonne nouvelle, vous rendez compte, dimanche c'était triomphal, il s'en va. Il revient pour prier au temple et pour dire qu'il est le Messie. Mais comme cela, donc les gens sont là, ils disent « Mais quand est-ce que tu prends le pouvoir ? Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Je suis venu pour vous donner la lumière. Oui, mais le pouvoir !» Les princes et prêtres, les docteurs de la loi et les anciens se réunirent et s'approchèrent de lui. « De quel droit, lui dirent-ils, fais-tu toutes ces choses et qui t'a donné ce pouvoir ? Réponds !» Vous voyez, c'est comme l'aveugle-né qui dit « Mais quand même, j'étais aveugle et il m'a rendu la vue. Enfin, il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de miracle. Comment ça se fait que vous ne savez pas d'où ça vient ?» Et eux disent « Mais d'où ça vient, tous ces miracles que tu fais ?» Vous voyez, par eux, parce qu'eux, ils s'en tiennent seulement au pouvoir, à la richesse et à la santé. Et Jésus, il est venu pour donner la santé de l'âme, le salut éternel. Ça veut dire que même ceux qui sont malades, même Marthe Robin qui pendant 50 ans sera alitée, a été heureuse parce qu'elle cherchait la grâce. Elle aurait pu être guérie quand même. Elle était perclue, paralysée, aveugle. Et non, elle était heureuse, elle chantait, elle priait, et tous les vendredis, elle vivait la passion. Voilà. Et c'est sûr que le catholicisme vu comme ça, c'est un peu austère, on dit. Alors il vaut mieux être malade et pauvre et tout ça. Non. Mais l'essentiel, c'est l'amour, mais le véritable amour, justement. Parce que l'Antéchrist, il vous dira, l'essentiel, c'est l'amour. Hein, mais aussi la richesse, le pouvoir et la bonne santé. Hein. Surtout, soyez riches, soyez prospères, éliminez vos enfants, éliminez vos parents. Ils sont vieux, ils coûtent cher. Et... faites-les mourir dans la dignité. Hein. Ça fera des économies aussi. Jésus leur dit... Et moi aussi, je vais vous poser une question. Et si vous pouvez la résoudre, je vous dirai de quel droit j'agis ainsi. Le baptême de Jean, hein, la question piège. Hein. Jésus, c'est quand même un juif. Hein. Et les juifs sont très intelligents. Et il pose toujours une question. Vous voyez, un rabbin dit, monsieur le rabbin, il paraît que les rabbins ne répondent jamais aux questions et ils répondent par une question. Qui vous a dit ça ? Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et là, le chanoine Weber, énervé ce soir-là, rajoute, répondez. Non, ça, c'est pas dans... C'est pas, Jésus l'a pas dit. Et eux-mêmes, ils pensèrent. Si nous répondons qu'il venait du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'y avez-vous pas cru ? Si nous répondons qu'il venait des hommes, nous avons à craindre que tout ce peuple ne nous lapide, parce que tout le peuple considérait que Jean-Baptiste était un prophète. Ainsi ne purent-ils que dire, nous ne le savons pas. Et là, hein, ils ont eu bien de la chance que le sol ne s'ouvre pas sous leurs pieds et qu'ils y semblent tout droit. Et moi, répartit Jésus, je ne vous dirai pas non plus en vertu de quelle autorité je fais ces choses, tellement c'est évident. Ensuite, il leur parla en parabole. « Que vous en semble ? Un homme avait deux fils. S'adressant à l'aîné, il lui dit, « Mon fils, allez aujourd'hui travailler à ma vigne. »« Je ne veux pas, » répliqua celui-ci. Puis, touché de repentir, il y alla. S'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. « J'y vais, Seigneur, » répondit ce dernier, et n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Hein, les pharisiens, ils sont là, c'est quand même plus simple hein, comme question. Ben, le premier. Mais le premier, vous voyez, c'est la vieille humanité et le péché originel qui se convertit. Le deuxième fils, c'est le peuple juif et c'est tous ceux qui reçoivent la foi et qui ensuite ne l'appliquent pas. Parce qu'on peut toujours charger le dos du peuple juif. Hein? Mais à votre propre mort, vous pourriez dire, ah ben c'est les Juifs qui, comment dire, ont livré Jésus à Ponce Pilate. Et là, Jésus dit, ben toi aussi. Tout pécheur livre le Christ à Ponce Pilate. Et ceux, parmi les Juifs qui ont désespéré ou qui ont péché contre le Christ, eh bien, nous en faisons partie à chaque fois que nous péchons. Bienheureux serions-nous si nous sommes Marie-Madeleine, si nous sommes Marthe, si nous sommes Joseph d'Arimathie, si nous sommes Jean, parce qu'eux aussi étaient juifs, et eux n'ont pas participé à l'exécution de notre Seigneur. C'est pour ça que l'Église a toujours protégé les juifs, contre tous les prétextes, comment dire, de ceux qui se disaient, bon, qui on va faire du mal ce jour-là? Ben, les juifs, oui. Alors, ce qui est plus délicat, c'est lorsque vous aviez des usuriers. Et ça, c'est autre chose. Mais je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'antisémitisme, mais un jour, j'en ferai un. Avec la police qui sera à la sortie, mais non. Parce que, justement, le grand rabbin de Rome a pris comme nom de baptême Eugenio parce qu'il a vu Pie XII protéger tous ses congénères face aux nazis. Eh bien, je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous précéderont dans le royaume de Dieu. Jean était venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisanes y ont cru. Et vous, devant cet exemple, vous ne vous êtes pas repenti, vous ne vous êtes pas déterminé à croire en lui. Écoutez une autre parabole, dit Jésus à la foule. Un père de famille planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis la loi des vignerons, il s'en alla pour longtemps, en un pays lointain. Lorsque vint la vendange, il envoya au vigneron l'un de ses serviteurs pour en recevoir le produit de la vigne. L'ayant saisi, les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner de ce qu'il devait. Il leur envoya un autre serviteur, ils le blessèrent à la tête, l'abreuvèrent d'outrage et le renvoyèrent également les mains vides. Il en envoya un troisième, ils le blessèrent lui aussi et le jetèrent dehors. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, ils les traitèrent de même, frappant et lapidant les uns et tuant les autres. Or, le maître de la vigne avait encore un fils unique qu'il chérissait. « Que ferai-je ? » se dit-il. « Je leur enverrai mon fils bien-aimé, peut-être qu'en le voyant, ils le respecteront. » Et après tous les autres, il envoya son fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se dirent l'un à l'autre, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage est à nous. » S'étant donc assis, saisi de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le mirent à mort. Lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ses vignerons ? Il perdra sans pitié ces misérables, répondit la foule, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits au temps voulu. Oui, reprit Jésus, le père de famille viendra, il perdra ses vignerons homicides et en mettra d'autres dans sa vigne. À Dieu ne plaise, s'écrièrent les Juifs à l'énoncé de cette conclusion. Pourquoi ? Parce qu'ils se sentaient concernés. Oui. La foi a été confiée au peuple hébreu. Et Dieu a envoyé des prophètes pour que cette foi soit vive. Et les Hébreux pécheurs ont tué les Hébreux saints. Voyez, ne tombe pas dans une dialectique juif ou pas juif. C'est juif pécheur et juif pieux. Les apôtres et les serviteurs du père de famille sont des juifs pieux. Jérémie a été lapidé. Isaïe a été coupé en deux avec une scie en bois. Voyez. Alors, fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, et là, Chenoine Weber n'interprète pas, hein, Jésus les fixe du regard, ça rigole vraiment pas, hein. Moi à leur place. Hein. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue le sommet de l'angle, la pierre d'angle. Ceci est l'œuvre du Seigneur, œuvre merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera broyé. » Donc là, vous avez les princes, les chefs du peuple et les prêtres qui disent « Bon, eh ben, la religion d'Abraham va passer aux autres peuples. » Oui, mais comme les promesses de Dieu sont sans repentance, sur les juifs pieux, la promesse persiste. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, les juifs se convertiront en masse. Parce que ils devaient être sauvés. Et à travers les siècles, tous les juifs pieux à qui on avait dit « Jésus, c'est pas le Messie, Jésus, c'est pas le Messie » depuis qu'ils étaient bébés, ils y croient volontiers, si vous voulez. Mais si en leur conscience, leur vraie conscience, ils ont fait le bien toute leur vie et ont suivi la loi d'Abraham, eh bien ils sont allés au ciel, tout droit. Et nous, vous voyez, à un moment donné, les prêtres catholiques, si nous ne bénissons pas notre héritage, à un moment donné, le bon Dieu, là, il ne va pas le transmettre aux extraterrestres. Vous voyez ? Un autre peuple, des aliens qui viendront, glou, 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 voilà. Alors, puisque les êtres humains n'ont pas été fidèles, je vous transmets l'évangile. Vous voyez ? Non. Là, il n'y a plus ce genre de possibilité. Ça sera la fin des temps. Voilà. Si les hommes d'église sont infidèles, on va clôturer, on va fermer. Les princes des prêtres et les pharisiens qui avaient entendu ces paroles comprirent que c'était d'eux-mêmes que Jésus parlait, et ils cherchèrent à se saisir de lui. Mais ils craignirent le peuple qui le considérait comme un prophète, ils le laissèrent alors et s'éloignèrent. Vous voyez, ça fait partie de la semaine sainte et de la passion, tout ça. C'est la cause de la mort de notre Seigneur. Il faut connaître ces paraboles. Ils sont fous de rage. Parce que Dieu leur dit, vous êtes des hypocrites. Et nous, en tant que prêtres catholiques, si on dit aux gens, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu est amour, c'est merveilleux. Eh bien, nous sommes des traîtres. Et on ne rend pas les gens heureux. Le péché, ça n'existe pas, tout va très bien. Commençons par le péché de gourmandise, voyons, c'est ridicule. Oui, mais quand vous avez des enfants à un anniversaire qui se giflent, ou qui se frappent, ou qui se griffent, parce qu'il y en a un qui a une part plus grande que l'autre, mais c'est pas un péché ? Ben si, c'est un péché. C'est tout. C'est au nom de la niaiserie universelle, on va pas dire le péché n'existe plus. Parce qu'il y a plus grave que les gourmandises, c'est vrai.